Raphaël, d'abord, la réaction américaine. Le président n'a pas réagi aux événements de Toronto survenus cet après-midi.
Pas encore. Ça ne saurait tarder, on imagine. Mais il y a certains sénateurs américains qui ont commencé à se prononcer. Certains même qui commencent un petit peu à instrumentaliser cette espèce de tragédie-là. Notamment le sénateur républicain de Ted Cruz du Texas qui a dit que cet attentat-là, parce qu'on le traite surtout aux États-Unis déjà comme un attentat, cet attentat-là démontre qu'on devrait confirmer Mike Pompeo comme secrétaire d'État parce qu'on a besoin de quelqu'un solide pour diriger la diplomatie américaine. Écoute, c'est déjà politisé alors qu'on ne connaît même pas les détails.
Grande visite à Washington, une arrivée triomphale, on peut le dire, pour le président français et sa femme, Emmanuel Macron, donc rencontre à la Maison-Blanche.
Absolument. Et ça, il y a quelque chose d'assez spécial dans cette dynamique-là entre les deux hommes parce que à la base, idéologiquement et culturellement, il n'y a pas grand-chose qui unit Emmanuel Macron d'un côté et Donald Trump de l'autre. Et pourtant, surtout depuis l'an dernier, depuis la fameuse invitation surprise qu'avait reçue Donald Trump à aller fêter la fête nationale française avec M. Macron à Paris, les liens semblent vraiment être sincèrement chaleureux entre les deux hommes. Écoute, tu avais eu une poignée de main complètement surréelle qui avait fait le tour de la planète l'an dernier, justement lors de la journée nationale française. Une poignée de main entre les deux hommes qui avaient duré, et là, c'est le nombre exact, là, 29 secondes. Imagine, Paul, une poignée de main de 29 secondes. Donc, écoute, un lien chaleureux entre les deux hommes, et on l'accueille, là, cette fois-ci, M. Macron aux États-Unis, vraiment en héros, pratiquement. On va notamment aller manger avec lui à la villa, l'ancienne villa de George Washington, le tout premier président américain. Mais ça ne change pas que, sur le fond, il y a des désaccords très profond et très sérieux entre les deux gouvernements, notamment sur la question du fameux accord sur le nucléaire avec l'Iran et sur les questions commerciales de façon générale, les tendances protectionnistes de M. Trump qui ne plaisent vraiment pas à la France d'Emmanuel Macron. Donc écoute, on s'en reparlera. C'est une visite qui va être suivie dans quelques jours de celle de Mme Merkel, la chancelière allemande. Donc deux grosses visites européennes à Washington.
Une chef d'État avec qui ne s'était pas... Enfin, comment on dit, la chimie ne passait pas tellement.
On peut dire, Paul,
entre les deux.
Il n'y avait pas eu de poignée de main de 29 secondes.
Non, absolument pas. Alors, le leader démocrate au Sénat, est-ce encore M. Schumer?
C'est encore M. Schumer.
Chuck de son prénom ou de son surnom, appuie la décriminalisation de la marijuana, alors que le gouverneur, c'est-à-dire démocrate du Colorado, lui, là, il a de sérieuses réserves face à la légalisation de cette drogue dans l'État du Colorado.
Qui est devenu le premier, on le sait, en 2012, à légaliser. Donc, deux choses. Ça, c'est sorti vendredi. On n'a juste pas eu le temps de s'en parler ensemble. Donc, c'était évidemment le 20 avril, l'espèce de journée annuelle pour les partisans du cannabis. Et t'as le leader, le numéro un du caucus démocrate au Sénat des États-Unis qui annonce que pour la toute première fois, il va introduire un projet de loi pour décriminaliser la marijuana à l'échelle nationale. Évidemment, ce projet de loi-là va aller nulle part à court terme, mais c'est quand même un message qui est envoyé. Et ce qui est remarquable, c'est que tu as un chef de file de son propre parti qui, le jour même, sort, et c'est quelqu'un qui est assez bien placé, le gouverneur du premier État à avoir légalisé, le gouverneur démocrate, qui dit, écoutez, nous, des problèmes, il y en a. Et même des problèmes qu'on pensait régler, ça les a pas réglés, notamment le marché noir qui, même 5 ans, après la légalisation, est encore là.
Oui.
Et ce qu'on note notamment, c'est que le taux de crime a augmenté de 5 %. Le taux de crime violent de 12 %, c'est plus du double de la moyenne nationale aux États-Unis pendant cette période-là. Et c'est la même chose quand on regarde les statistiques au niveau de la capitale et de la métropole de l'État, donc évidemment Denver. Le taux de sans-abri, alors qu'il diminuait à l'échelle nationale, augmentait au Colorado. Et ce qui est remarquable, Paul, c'est que à la fois le nombre de points de vente et le nombre, en fait, la quantité de ventes, le volume de ventes a augmenté de façon très drastique en 4 ans. Et il n'y a aucune espèce de stratégie pour contrôler, limiter ou réduire la consommation. Aucun. Et tu regardes ici ce qui est en train de se produire. On annonçait aujourd'hui les points de vente à Montréal. Je sais que tu voulais dire quelque chose.
Non, mais c'est simplement pour dire où on en est rendu dans les étapes. Il y aura troisième et dernière lecture et probablement adoption au Sénat début juin, ce qui nous amène vers une légalisation selon l'échéancier là, de l'été 2018.
Et avec aucune réelle stratégie, encore une fois, pour limiter ou réduire la consommation. Et tu avais Alain Brunet de la SAQ que tu as eu à ton micro ici même il y a à peine quelques semaines, qui le mois dernier a dit, là je le cite, on va commencer avec 20 succursales à la grandeur de la province, mais ce n'est pas un enjeu. Là, c'est une situation exacte. Si ça en prend 300, bien, ça en prendra 300. Donc, ceux qui disent que c'est pour la santé, là,
Ben, en tout cas, il y a un autre État qui se pose de sérieuses questions, et j'étais là quand c'est devenu légal, la Californie.
Oui.
Le 1er janvier, à minuit, la Californie a dit, et évidemment, ça a été voté, et ça devient légal. Alors, je me suis rendu dans une boutique dite légale. C'était le premier balbutiement. Et puis les gens ont dit tout de suite, ça n'a pas de sens l'écart de prix entre le légal et le marché noir de la rue. Il y avait un écart et les gens disent, mais voyons donc, je suis certainement pas pour me procurer le pot que je peux aller me procurer pour beaucoup moins cher dans la rue, sans trop d'ailleurs être harcelé. Là.
Mm-hmm.
Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en Californie, mais il y avait un écart important entre le légal et l'illégal. Et finalement, ben oui, tu nous as parlé de la chanteuse canadienne, de Timmins, Shania Twain.
Ben oui, on en parle parce que, écoute, elle s'est sentie forcée de s'excuser après une entrevue publiée hier par le journal The Guardian, un journal anglais, dans lequel elle se fait demander, je répète, c'est elle qui se fait demander la question et elle répond qu'en 2016, si elle avait pu voter, elle aurait voté aux États-Unis pour Donald Trump. Mais elle ne pouvait pas voter, Paul, parce que comme tu le dis, c'est une Canadienne. Et elle s'est fait littéralement bombarder de messages vitrioliques, frustrés, d'internautes qui n'appréciaient pas même qu'une chanteuse. Je veux dire, il y a peut-être une artiste au monde, si on ne compte pas Chuck Norris, là, dans la mesure où on peut considérer Chuck Norris un artiste, là. C'est peut-être la seule artiste importante au monde qui ose dire qu'elle appuierait peut-être Donald Trump et alors qu'elle ne peut même pas le faire.
Non.
Et elle sent le besoin de s'excuser. Écoute, que Shania Twain ou Madonna ou Céline Dion aiment un politicien ou un autre, on peut-tu juste leur laisser avoir leur opinion sans que ça influence de toute façon nécessairement la note?
Oui, s'excuser.
Hey, voyons donc.
Eh là là.
Fait que je te laisse au moins sur une note joyeuse. Un petit extrait.
Un petit extrait de Shania Twain qui s'excuse. Ah oh non, qui chante.
Qui chante.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
À demain.
Et à demain.